Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cœur du lotus. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir Angélie Osina pour ce nouveau volet, pour ce nouveau triptyque de femmes inspirantes. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, elle va nous raconter son parcours extraordinaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse écoute.
Bonjour Heidi.
Bonjour. Adi.
Merci d'être ici, d'accorder du temps pour ce projet aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir et j'ai vraiment à cœur de partager ton parcours et d'écouter ce que tu as à nous raconter sur ton chemin de vie, sur ce que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui, qui tu es et où tu en es aujourd'hui.
Ben merci de m'accorder ce temps, merci de m'avoir fait cette proposition. C'est trop chouette.
Eh ben vas-y, quand tu
Ah
veux.
oui, toi t'es comme ça, tu me
Raconte-nous.
jettes dans le...
Je te
Je pensais que
jette
tu
dans
aurais
le
des
bain.
questions.
Je veux que tu te sentes le plus libre possible voilà, d'y aller comme tu as envie. Voilà. Qui es-tu? Quel est ton chemin de vie? Qu'est-ce que tu as parcouru pour en arriver là où tu es aujourd'hui? C'est quoi ton chemin, quoi?
Ah oui, donc c'est la psychanalyse en fait enregistrée, c'est ça?
C'est ça exactement.
On en est où là? On fait quoi? Je m'attendais à des questions plus précises, mais c'est, écoute, on va plonger, il n'y a pas de problème.
On va plonger.
On va plonger. Bon, alors déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Anne-Julie Osina et ça fait pas longtemps d'ailleurs que j'ai fait cette, comment dire, cette réconciliation avec mon prénom complet. Donc maintenant, on m'appelle du coup plus Agile, comme tu m'appelles, mais Anne-Julie, depuis 2 ans maintenant. Et Agile, c'était vraiment mon nom de scène, parce qu'à l'époque, j'étais performeuse. Et j'ai un parcours voilà, d'études d'art, d'études universitaires, et un doctorat en littérature française sur lequel j'ai travaillé sur la performance artistique. Et tout ce travail autour du corps féminin, le corps comme outil, le corps comme... Comme outil politique, mais aussi spirituel. C'était vraiment les questions voilà, qui m'ont accompagnée jusqu'à ce que je soutienne ma thèse en 2014. Et puis après, j'ai laissé un peu la performance de côté pour faire place au tarot. Voilà. Si tu veux, le tarot est rentré dans ma vie à peu près à ce moment-là. Et j'ai privilégié, on va dire, plutôt que de faire des rituels, parce que c'était vraiment ça, mais la performance que je faisais, c'était de la performance rituelle. Donc il y avait vraiment tout un protocole et une mise en scène particulière dans lequel je testais mes propres limites et j'interrogeais justement le divin. Et si tu veux, à partir du moment où j'ai décidé de transformer tout ça, le tarot est arrivé et maintenant, voilà, je privilégie la consultation privée plutôt que la performance publique et j'accompagne justement avec des rituels, donc avec beaucoup de travail autour de l'illustration. Illustration, j'ai fait mon propre tarot qui s'appelle le tarot de l'incarnation et aussi donc avec des illustrations qui vont être soit orner les corps des personnes qui le désirent, donc de l'accompagnement de tatouages rituels, soit venir s'inscrire et s'imprimer sur une bougie si la personne n'est pas du tout branchée tarot mais qu'elle a envie quand même d'une illustration issue de la consultation qu'on a fait ensemble. Qui reprend les symboles et les choses qui peuvent l'accompagner sur son chemin. Ce sera sur une bougie et donc ce sera de façon éphémère pour le coup, puisque c'est invité à. Enfin, la bougie invite en tout cas à la prière et au recueillement et à être brûlée, donc détruite entre guillemets. Donc voilà, ça c'est un peu le parcours en flash que je te transmets. Il y a beaucoup de choses aussi derrière tout ça, mais en tout cas, voilà, j'en suis là aujourd'hui. À transmettre et à accompagner, en tout cas de cette façon-là, les personnes qui le veulent. Je tiens à préciser aussi que le tarot que je pratique n'est pas un tarot divinatoire, absolument pas. C'est un tarot plutôt spirituel, plutôt psychanalytique, si je peux dire, ou psychologique. J'aime pas trop le mot psychologique, mais en tout cas qui va plonger dans les symboles dans l'inconscient, dans les mythes, dans les contes, dans les légendes, dans les choses en fait qui, à mon sens, habitent notre corps physique aussi, qui sont inscrits en tout cas en nous. Et donc, pour moi, la légende, le mythe, ou en tout cas l'histoire la plus imprégnée dans notre corps, dans notre incarnation actuelle, dans cette culture et à cette époque, c'est la Bible. Et donc, c'est sur ça que je travaille en particulier. Et donc, depuis septembre, je me suis inscrite donc en théologie orthodoxe pour continuer, en fait, cet apprentissage que je pense que je n'aurais jamais terminé, mais voilà, pour en tout cas me relier à ces textes sacrés parce qu'ils sont aussi constitutifs de mon travail avec le tarot. Voilà. Je continue ou peut-être tu as des questions?
Oui, tu parlais beaucoup tout à l'heure de ton rapport au corps et de la performance. Tu parlais aussi de la thèse que tu avais écrite. Alors, je me questionnais par rapport à tout ça, tout ce cheminement de vie de ton enfance jusqu'à la fin de tes études, tout ce qui t'avait traversé, tout ce que tu avais pu vivre. Au travers de tout ça, de toutes ces expérimentations corporelles et des choix que tu avais pu faire. Tu parlais beaucoup de la place de la femme, du corps de la femme,
Oui.
d'avoir testé tes limites. Est-ce que tu voudrais partager un petit peu plus par rapport à ça?
Oui, ben, en fait, moi j'ai grandi dans une famille religieuse, hein, catholique romaine, mais avec une maman très mystique, ou en tout cas qui a une vision de la prière et qui a une vision du Christ qui est absolument incroyable et magnifique. Mais qui est très 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 forte et très prégnante. Enfin, je veux dire, quand c'est ton truc, que tu grandis, ce que j'expliquais hier justement en live, on a fait un petit live justement pour parler un peu de tout ça, et j'expliquais, je disais, mais si tu grandis dans une famille avec une telle force spirituelle, et que c'est ton truc à la base, que tu es né vraiment pour aussi, en tout cas, développer cette question-là, parce qu'on est cinq frères et sœurs, mais en vrai, je pense être la seule à être partie aussi loin avec toutes ces questions-là, là, j'entends. Pas que mes frères et sœurs soient pas spirituels, mais ils le sont différemment. En tout cas, ils ont pas ce besoin de le crier sur les toits ou de faire ce que j'ai pu faire. Ben, en fait, c'est difficile quand les parents ont une telle posture parce que on se rend compte que si on veut exprimer sa propre vérité ou sa propre foi, on ne peut pas se contenter juste de faire du copier-coller sur ce que nos parents nous ont donné et puis continuer comme si, voilà, faire l'héritage un peu de ce qui a été dit. Il faut casser, en fait, avec ce modèle-là. Casser vraiment l'image qu'on en a, casser, voilà, faire une rupture. Et moi, la rupture, elle s'est faite assez brutalement. C'est que ça a été un rejet, en fait, à l'adolescence. Mais comme beaucoup de personnes, j'ai envie de dire, quand on grandit. Voilà, dans cette religion-là, c'est compliqué de trouver une identité, voilà, d'affirmer des choses sans toujours se sentir pécheur ou pécheresse ou se sentir toujours pas comme il faudrait être, quoi. On est toujours montré un petit peu du doigt si on fait un pas de côté, donc c'est compliqué. Et si tu veux, moi, mon chemin était particulier puisque je voulais rentrer justement dans les ordres. J'avais vraiment pour projet, en tout cas, de me faire religieuse et de continuer parce que j'étais vraiment à fond quand j'étais petite et je faisais donc la messe à mes poupées, hein. J'avais comme ça une petite chapelle chez ma grand-mère qui était un peu à l'abandon parce que ma grand-mère elle a un grand terrain avec de la forêt et tout dans le Var et il y a une petite chapelle qu'elle avait fait construire il y a hyper longtemps et elle était complètement à l'abandon. Je l'avais récupérée avec ma cousine. Et on l'avait entièrement nettoyée, moi j'avais tout aménagé dedans et je l'avais appelée la chapelle Sainte Rita et c'était ma chapelle dans laquelle je faisais mes messes, quoi, tu vois. Puis je pense que, voilà, vers l'adolescence de 13, 12, 13 ans, je pense, voilà, il y a eu des événements et des choses dans ma vie qui ont fait que, ben, je pense que ça, c'est aussi beaucoup la cause des hormones, hein. Les hormones qui sont pas que, on en fait un truc un peu genre, ouais, c'est les hormones. Non, les hormones, en fait, c'est des messagers pour le corps, quoi, c'est un peu au corps ce que sont les anges dans le monde céleste. C'est-à-dire que c'est vraiment les messagers qui viennent t'informer de certaines choses par rapport à toi et par rapport à ce vers quoi tu veux diriger ton énergie. Et cette énergie-là, elle m'a dit stop, en fait, on arrête. Donc j'ai laissé de côté. Par contre, le Christ ne m'a jamais quittée. Il a toujours été là, il a toujours été présent, mais j'ai eu ce manque ouais, je dirais de spiritualité à un moment donné parce que je sentais que je le cherchais, mais du coup j'avais tout mis dans mon travail d'artiste. Et ce travail de performance, il était orienté vraiment, les rituels que je faisais étaient en lien vraiment avec tous les symboles chrétiens. Voilà, j'en parle beaucoup dans ma thèse, même si c'est une thèse aujourd'hui, je suis absolument plus d'accord avec ce que j'ai écrit, que j'ai évolué, qu'il y a des choses qui pour moi me paraissent pas assez matures en fait pour voilà pour pouvoir être revendiquées aujourd'hui, mais en tout cas c'est ce que j'ai écrit à l'époque. Et donc ces symboles, j'ai réussi, on va dire, à avoir cet oxygène-là du Christ à travers cet art que j'ai développé. Mais à un moment donné, ça s'est quand même révélé à moi de façon beaucoup plus forte, et c'est passé par le tarot, bizarrement, tu vois. On en fait tout un truc avec le tarot, comme quoi c'est pas compatible avec la religion. C'est complètement faux. Le tarot, effectivement, peut-être quand il manipule les gens, mais j'ai envie de dire la Bible, pareil. La Bible, il y a plein de gens qui se servent de la Bible pour frapper avec, hein, pour moraliser. Donc, ce n'est qu'un outil, finalement. Ce n'est qu'un outil. Maintenant, je crois que la véritable lumière, elle est dans le cœur des personnes qui utilisent ces outils. Et si elle n'y est pas, et ben oui, ça peut être un outil absolument dévastateur et de manipulation et horrible, quoi. Mais donc voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et donc tout ce travail de tarot a été, si tu veux, accompagné dès le début par les lettres hébraïques. Et ce sont les lettres hébraïques qui m'ont enseigné plus que le tarot même, parce que dans mon tarot de l'incarnation que j'ai créé, qui est vraiment basé sur le tarot de Marseille. Classique, hein, sur le Nicolas Convert de 1760. Ce tarot classique, j'ai remis à l'intérieur, donc je me suis un petit peu inspirée quand même, j'ai mis beaucoup de couleurs, j'ai mis des choses quand même qui sont de mon goût, mais ça reste vraiment basé sur la géométrie sacrée du tarot et sur la graphie telle qu'on la connaît dans la tradition marseillaise. Et j'ai ajouté ces lettres hébraïques qui sont remises voilà, au centre des arcanes majeures et qui me permettent aujourd'hui, alors avec un petit peu d'aide d'enseignement de la part d'un professeur en hébreu biblique, qui me permettent en fait de lire des mots en hébreu dans mes tirages de tarot et de me renvoyer, si tu veux, les questions de mes consultantes et consultants à des versets bibliques et d'accompagner finalement avec ce livre sacré, avec ces écrits qui sont très très riches. Voilà, je sais pas, je me suis peut-être un peu perdue en répondant à ta question, mais je suis partie.
Pas du tout, pas du tout. Tu nous as parlé de ta maman, mais tu nous as pas parlé de ton papa.
Alors, mon père, il est. C'est une personne qui est très pieuse aussi, hein, qui lui a carrément décidé d'être ordonné diacre, donc d'avoir vraiment une mission lui aussi au sein de son église et d'accompagner. Voilà, il accompagne beaucoup les jeunes, il fait beaucoup de. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition du diacre, le diacre est une sorte de missionnaire pour l'église, hein, qui va donner des sacrements et qui va faire des liturgies aussi. La seule différence avec le prêtre, c'est que le diacre est laïque, donc il peut être marié avec des enfants, en tout cas dans l'Église romaine, parce que nous, moi maintenant que je suis orthodoxe, j'en parlerai plus tard, mais les prêtres sont mariés, donc ça c'est très différent. Et les diacres ne peuvent pas non plus faire le rituel de ce qu'on appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire faire venir la présence réelle de Dieu dans l'hostie au moment de la communion. C'est que les prêtres qui peuvent faire ça, mais par contre, ils peuvent distribuer les hosties et voilà, accompagner vraiment pour toute la liturgie. Et il fait beaucoup voilà d'enterrements, mariages, baptêmes. C'est vraiment devenu sa vie là depuis quelques années. Il est très 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 dévoué à ça et c'est absolument magnifique la manière dont il accompagne les gens. Je suis très admirative de lui. On n'a pas toujours été voilà en bons termes. Comme beaucoup de personnes, peut-être avec leurs parents, que ce soit à l'adolescence ou plus tard, il y a eu des moments un peu de clash, surtout avec la religion. Et aujourd'hui, quand je le vois, je suis trop fière en fait d'avoir un papa qui soit aussi connecté en fait à cette lumière-là. Il est vraiment dans la lumière maintenant, quoi. C'est très inspirant.
Tu Tu nous as parlé du corps aussi, du corps de la femme tout à l'heure, qui a l'air d'être
Oui.
un grand sujet pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, peut-être ton rapport à ton corps ou au corps des femmes de manière générale, ce que tu as pu vivre avec le corps des femmes depuis tout ce temps?
Oui, ben, en fait, la performance, elle a permis vraiment de questionner ce corps, hein, d'essayer de trouver. Moi, la grande question, depuis toujours, j'ai l'impression que c'est justement cette question d'incarnation. Et c'est le grand thème de ma vie, ou en tout cas, voilà, déjà dans ma thèse, c'était là, j'essayais de comprendre qu'est-ce que c'est que ce corps, qu'est-ce qu'on en fait, à quoi il sert, voilà. Et c'est vrai que je pense que ça a toujours été un questionnement très fort. Pour avoir fait des expériences à travers mon corps depuis jeune, en fait, hein. À chaque fois que j'ai eu des grandes révélations, c'est toujours passé par le corps, en fait. C'est pas passé forcément, même si je suis allée chercher, que j'ai fait des études, tout ça. C'est pas forcément passé par mon intellect, tu vois. C'est vraiment passé par le corps physique et par les sensations. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup interrogé ce corps parce que je comprenais pas. Pourquoi il posait tant de problèmes dans ce monde alors qu'il est source de miracles, quoi. Et d'autant plus maintenant que je suis maman, que j'ai pu vivre des expériences avec le corps, que ce soit l'enfantement libre à la maison, que ce soit même mon deuxième enfantement qui n'était absolument pas libre, qui était un accouchement provoqué à 6 mois de grossesse par césarienne d'urgence parce que j'étais en train de mourir. Enfin, je me dis, mais c'est dingue, la résilience du corps, la force du corps, l'allaitement. Enfin, c'est quand même dingue que ce corps féminin, on n'en prenne pas du tout conscience. Et c'est quelque chose qui m'a toujours interrogée. Je me suis dit, mais comment ça se fait que dans la médecine, le corps de base, c'est le corps de l'homme, alors que le corps de l'homme est basique, si je puis dire. En tout cas, il n'a pas de complexité autant que le corps féminin, le corps biologique. Et on aurait tellement en fait à approfondir toutes les questions liées au corps féminin et le prendre comme modèle pour ensuite aller vers le masculin plutôt que l'inverse, où finalement on exclut énormément les femmes, que ce soit justement dans tout ce qui est recherche. Je pense évidemment à l'endométriose, mais il n'y a pas que ça en fait, il y a plein, plein, plein de choses. L'accouchement physiologique en fait partie, tout ce qui est en lien avec les règles, c'est en train de s'ouvrir aujourd'hui. On est en train d'en parler grâce justement à Internet, les réseaux sociaux, les féministes, tout le monde. Voilà. Et puis ça crée du clash aussi parce que bah, ça bouge et que à chaque fois qu'il y a des périodes comme ça qui bougent, ça fait des extrêmes aussi de l'autre côté, ce qui est logique en fait, quand on a vécu dans un extrême comme ça pendant tant d'années en fait. Donc voilà, c'est des questions qui me touchent, des questions liées à la sexualité aussi, c'est des questions que j'ai abordées aussi à l'époque de mon parcours en performance. C'est pour moi, il y a vraiment un lien très fort entre la spiritualité et la sexualité, parce que ce sont des, enfin, comme disent les alchimistes, mais comme aussi on le dit en Kabbale ou dans les évangiles, enfin dans toutes les traditions, on retrouve cette idée que ce qui est en haut est en bas, que ce qui est faible est fort, que ce qui est voilà dedans est dehors, etc. Et en fait, dans ces polarités et dans cette correspondance entre ces polarités-là. Ben on oublie aussi que oui, si on peut parler peut-être langage plus corporel, si on peut parler, ben toi tu connais bien ça, les chakras par exemple,
Oui.
et ben il y a cette correspondance entre le haut et le bas, quoi, entre vraiment l'esprit, je dirais, et puis la racine, la sexualité, les fondements, les fondations du corps. Et que tout ça, c'est aussi, ça se retrouve dans l'orgasme. Et que cet orgasme, il est toujours pas problématique parce que ça s'ouvre aujourd'hui, mais ça, voilà, c'est assez tabou en fait, hein, c'est pas quelque chose dont on parle. Alors encore moins dans la religion et encore moins dans les questions qui sont liées aux spiritualités, ou sinon, si, mais ça dépend parce qu'il y a aussi beaucoup de sectes et beaucoup de trucs qui se servent de ça. En fait, c'est une zone de c'est tellement puissant qu'en fait, on peut faire tellement de bien avec et tellement de mal aussi que c'est, voilà, c'est les grandes polarités, quoi. Et cette question vraiment du corps féminin, ou en tout cas de la thématique qui en ressort sur les multiples facettes, les multiples cycles, les multiples orgasmes possibles et découvertes, les étapes de la vie. En fait, c'est tellement riche, c'est tellement beau, et je trouve ça trop beau qu'il y ait plein de femmes qui découvrent ça maintenant, alors que c'est resté tellement dans l'ombre pendant hyper longtemps, quoi. Enfin, après, je pense que c'était quand même connu et reconnu par les femmes, parce qu'il ne faut pas non plus nous prendre pour des idiotes, hein, on connaît nos corps aussi, et on sait s'en servir. Simplement, c'était pas ni médiatisé, ni, enfin voilà, si on regarde tout ce qui est propagé, on va dire, dans le monde extérieur, à travers l'art, la littérature, tout ça, c'est toujours un peu mis de côté, voilà. Et pour tout, en fait, hein, si tu regardes même le monde de l'art, les femmes, c'était pendant longtemps le sujet de l'œuvre et non pas l'artiste. C'était la femme, elle était. C'était les féministes hein, de l'époque, déjà dès les années 70, on interrogeait ça, quoi. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de femmes dans les musées, mais en tant qu'objet de l'œuvre et non pas en tant qu'artiste? Il n'y a aucune femme artiste, enfin, il n'y avait aucune femme artiste, ou en tout cas très peu. Et voilà, c'est en train de bouger tout ça. Mais c'est des questions qui m'ont toujours touchée et que je trouve voilà, importantes à soulever et à continuer de mettre en lumière.
C'est pour ça que tu as écrit ce livre Célébrer son féminin.
Oui, tout à fait. Que j'ai écrit sous mon ancien nom d'artiste là, mais qui est oui, qui est bien de moi et qui en fait parle justement de notre lien à ce corps où en fait finalement on passe notre vie à essayer de nous vendre des trucs. Et même en spiritualité, parce qu'aujourd'hui même quand on regarde tout ce qui se fait, il y a plein de choses qui s'ouvrent, il y a plein de femmes qui se libèrent sur plein de plans, mais il y a toujours un truc qu'on va toujours te vendre une formation, te vendre un objet, te vendre une huile, te vendre tu vois, un cosmétique, te vendre une culotte menstruelle, pardon, te vendre, il y a toujours un truc à te vendre en fait, comme si finalement tu pouvais pas juste vivre avec ton corps et être voilà pleinement comme on le fait, tu vois, avec on voit déjà ça depuis longtemps dans la maternité, enfin, toutes les conneries qu'on nous vend, tu vois. Alors qu'il n'y a rien de mieux que juste de porter son bébé avec un bout de tissu et de le garder contre soi, voilà, sans forcément acheter la dernière poussette, le dernier truc, le dernier bidule. Enfin, c'est vraiment que du capitalisme, en fait, qui se sert du corps des femmes depuis toujours. Et ça va pas en s'arrangeant. Donc, je pense que vraiment revenir à cette simplicité du corps, à cette reconnexion. Après, c'est facile aussi pour moi de dire ça, et ça, ben, je m'en excuse pour les personnes qui ont lu ce livre et qui ont dû se dire, mais moi, par exemple, j'ai une endométriose, et ben, je suis désolée, mais ce que tu dis, Anne-Julie, ça va pas, parce que je perds beaucoup de sang, et donc je peux pas non plus complètement éloigner la médecine. Ou moi, j'ai fait un accouchement, ça a été terrible, tac, je peux pas non plus accoucher chez moi. Ben, voilà. Et tout ça, je l'entends, et c'est vrai, quand on a besoin de la médecine, quand on a besoin de choses, on sait où les trouver. On n'a pas besoin, par contre, de se dire qu'il faut ça pour être maman ou pour vivre. C'est en fait un plus pour faciliter la vie et pour aller, voilà. Comme me disait ma sage-femme lors de mon premier accouchement, elle m'avait dit, tu sais, s'il y a un problème, il y a l'hôpital. Donc ne t'inquiète pas, ce sont des très très bons techniciens. Mais on n'a pas besoin d'eux en soi pour accoucher. L'accouchement, il est naturel, en fait. Il est simple et... il se fait simplement si effectivement tu te fais confiance, tu laisses les choses venir. Alors ça aussi, c'est un peu traître de dire ça, c'est de dire, mais attends, donc ça veut dire quoi? Encore une injonction sur le corps des femmes, de dire qu'il faut se laisser aller, qu'il faut être ceci, qu'il faut être cela. J'entends ça aussi. Mais en vrai, il faut, enfin voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture à ce genre de... Il ne faut pas en faire une injonction non plus. Il faut juste faire ce qu'on a décidé de faire au moment où on le fait et qu'on laisse la place aux gens qui ont décidé de faire les choses différemment. Ça, c'est important, je crois.
Est-ce que
Et
tu
ça...
penses que aujourd'hui tu as réussi à trouver un équilibre en allant chercher dans les extrêmes avec ton corps, avec tout ce que tu as pu vivre et entreprendre jusqu'ici?
Oui, bah oui, complètement. Après, équilibre, je ne sais pas, je pense qu'on est toujours en travail, entre guillemets, ou en, j'aime pas trop ce mot, mais en
Développement.
réflexion, en développement. Effectivement, la vie, c'est ça, quoi. On n'est pas toujours les mêmes, voilà, d'une période à l'autre. Et en même temps, si, Ouais, moi, mon équilibre maintenant, effectivement, je crois que j'ai cherché longtemps dans la matière et dans le corps physique, j'ai cherché Dieu, en fait. J'ai cherché ce divin en allant vraiment toucher des zones d'interdit et des choses, en fait, qui étaient à la limite, mais c'était mon propos, c'était mon objectif politique, artistique, spirituel. Et puis un jour, j'ai fait une expérience toute con, vraiment quelque chose de très simple, et je me suis effondrée. Et vraiment, et je me souviens de ce moment parce que mon compagnon m'a regardée, m'a dit, mais toi, qui es tellement forte, qui fais tellement des trucs de dingue, des performances dans tous les sens, cette expérience, en fait, ça... Tac. Et c'est comme si vraiment, d'un seul coup, tu sais, c'était pas moi, en fait, qui cherchais l'enseignement comme je le faisais avec les performances où j'allais chercher l'information. Là, c'est la vie qui m'a dit, tiens, cadeau. Hop. Et d'un coup, c'est la grâce en fait qui rentre et le cœur qui s'ouvre. Et là, ça fait un ménage pas possible où d'un seul coup, tu as la sensation que ben, tu n'as plus besoin de chercher en fait. C'est là et c'est très très fort. C'est très puissant. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Hein. Ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain. C'est pas la baguette magique aussi. Il y a eu plusieurs étapes de vie. Mais je pense que ouais, le moment où, en tout cas, j'ai arrêté la performance, c'était à mes 30 ans. Et c'est vraiment le moment où je rentre dans cette spiritualité-là et où d'un seul coup, ma colère s'apaise. Je rencontre le tarot, je rencontre mon arbre généalogique aussi, parce que dans le tarot, en fait, il y a aussi l'histoire de mon arrière-grand-mère qui était tarologue. Hein, donc, y a ce côté où d'un seul coup, je renoue avec ma famille, je renoue avec mes ancêtres, je trouve mes racines et je m'implante finalement dans ce terreau-là. En acceptant qui je suis. Et puis il y a 2 ans, ben là ça a été complètement là, ça a été le coup de grâce, j'ai envie de dire, du moment, ben, finalement où là je me suis reconvertie en fait au christianisme parce que ce qui m'a été donné était tellement fort et tellement beau et tellement voilà que la seule chose que je pouvais faire c'était juste me mettre à genoux, demander pardon et puis continue ma vie avec ce cœur-là qui a été complètement ouvert vraiment avec tout ça. Donc bon, ça s'est fait aussi par des expériences, par des rencontres, par plein de choses, hein, mais je crois que c'est quand on cherche, on trouve. Donc c'est là aussi, il faut se dire qu'est-ce qu'on cherche. C'est bien de définir et de savoir ce qu'on cherche. Parce que vraiment, cette parole qui dit... frappez, on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Elle est vraie, elle est vraiment vraie. C'est une vérité qui fait partie de ce monde, que ce soit matériel ou spirituel. C'est vraiment les deux. En tout cas, quand on l'intentionne dans le monde subtil, elle s'incarne dans le monde matériel. Et ça, j'en suis convaincue. Je l'ai vécu, donc.
Si tu devais donner des noms aux chapitres clés de ta vie jusqu'à aujourd'hui, ce serait quoi?
Je dirais, je ne sais pas si je peux donner des noms, mais je peux définir les grandes périodes, peut-être un peu comme Picasso, tu sais, avec des couleurs, j'en sais rien. Mais, pardon. Il y a l'aspect, déjà, petite enfance et enfance, en tout cas jusqu'à l'adolescence, là, ce monde un peu... Ce monde un peu connecté au Père, connecté aux saintes et connecté vraiment à la foi. Une foi d'enfant, hein, donc une foi qui est vraie, mais qui en même temps reste une foi d'enfant, donc qui a encore besoin de maturer. Je pense que le clash fait partie de la maturation. Cette période-là était une période quand même de désincarnation un peu. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui me font penser que j'étais de ce monde, mais j'étais pas en ce monde. Tu vois, j'étais vraiment perchée. Bah, je parlais aux anges. Ma mère me disait que j'avais trois amis. J'ai eu 3 ou 4 amis imaginaires durant toute mon enfance. Je parlais, donc il y en avait un en particulier quand j'avais 2, 3 ans. Il paraît que je parlais avec quelqu'un. Voilà, on ne sait pas qui. Il y avait une présence avec moi, un ange. Hein. J'étais vraiment dans ce monde angélique, je pense, et très bulle. Et puis j'ai percé la bulle. Et puis après, tout ce qui va être adolescence, et puis je dirais petite vingtaine, là, toute cette période-là, c'est la période très rouge, en fait, hein, très, très cher, recherche d'incarnation, recherche du corps, recherche de vérité, mais incarnée, quoi, vraiment dans le corps. Donc ça part un peu dans plein d'expériences pas possibles, mais qui sont des expériences qui ont toujours été de l'expérience. C'est-à-dire que j'ai jamais cherché, tu vois, à rentrer dans un, je sais pas moi, dans des addictions ou dans des communautés ou dans des choses, tu vois, qui m'amèneraient peut-être à des choses extrêmes. C'était toujours, voilà, ben je vais dire, oh, j'ai envie de tester ça, je le teste, et puis c'est fini, on passe à autre chose, quoi. Donc il y avait vraiment des choses, et pareil avec la performance. Donc je testais, je faisais des performances. Une performance, on peut pas la faire plusieurs fois. Moi, il y a quelques performances que j'ai fait plusieurs fois, mais c'est jamais la même performance, en fait. C'est le principe de la performance, c'est ça, c'est qu'une performance artistique, elle est définie comme étant unique, singulière, elle se passe dans un temps et un espace donné, et on ne peut pas la refaire. Alors, si on la refait, c'est parce que voilà, le message, on veut le refaire, mais que le contexte et l'époque où on va le refaire sera complètement différent de la première fois où on l'a fait. Donc, il y avait toujours cette recherche de vérité et d'instant présent, vraiment l'instant T, quoi, ce moment-là où on fait quelque chose, c'est cette recherche-là que j'avais. Donc, ça, c'est vraiment cette période rouge-là, est très, très, très forte. Ensuite, il y a eu la période, effectivement, à post-thèse, post-doctorat. Là, c'est une période un peu blanche, quoi, une espèce de page blanche. Il y a le tarot, il y a plein de choses qui rentrent en résonance avec la spiritualité, qui ouvre à ce nouveau chapitre de vie. Il y a les lettres hébraïques qui commencent à rentrer, toujours de la recherche, toujours voilà, la galerie La Papesse que j'ai ouverte et tout, à Toulouse, un lieu vraiment pour mettre à profit toutes mes connaissances justement sur le rituel, où j'ai commencé à travailler le tatouage, et aussi une forme de performance en soi. Où, bon, bah là, c'est là où on écrit, si tu veux, la page blanche, le côté où on écrit, pas la page blanche au sens où il n'y a pas d'inspiration, mais plutôt le livre qu'on commence à ouvrir, on commence à écrire et à mettre en place tout ça. Et puis là, depuis un an, je suis arrivée à Cordes-sur-Ciel, depuis cette conversion aussi chrétienne et orthodoxe. Et alors là, je sens que c'est toute nouvelle vie qui est en train de s'ouvrir, et c'est pas quelque chose de différent de ce que je suis. C'est qu'en fait, c'est comme si j'étais revenue au point de départ. Il y a quelque chose comme ça dans les grands moments de la vie. Bon, bah après, je vais avoir 40 ans, donc il y a cet aspect d'un seul coup, c'est paf, je suis en train de m'enraciner pour de bon, hein. Le 40 dans la Bible, c'est vraiment ce moment où on se dépouille, mais en même temps où on va s'ancrer. Dans le tarot, on le connaît par la carte de l'empereur qui nous parle vraiment de cet enracinement, mais pas un enracinement par les biens matériels comme on nous fait croire souvent ou quoi. Et par les racines, vraiment. C'est-à-dire, pour moi, le fait de devenir adulte, ou le fait en tout cas d'avoir cette maturité qui s'installe, c'est parce qu'on prend racine et parce qu'on est complètement OK avec le terreau d'où on vient. Et on en a, je pense, extrait le meilleur pour nous, quoi, si je peux dire. Après, bon voilà, j'en sais rien, je suis encore en chemin, tu vois. Donc, je peux pas vraiment dire, ah, oh, ça y est, je suis arrivée. Mais pour moi, où j'en suis là maintenant, je suis bien, quoi. Et je me sens, je me suis jamais sentie aussi moi-même que depuis que je suis ici et que je suis connectée à tout ça. Voilà. Mais c'est un gros choc, hein. Moi, si tu vois, alors si tu avais dit à la petite fille jusqu'à ses 12 ans que j'allais finir, ou en tout cas que j'allais devenir chrétienne orthodoxe, pratiquante dans une communauté, etc. J'aurais dit OK, c'était complètement logique. Par contre, si tu disais ça à l'ado, quelquefois, je m'imagine en train de parler, tu vois, à la jeune fille que j'étais, je me dis, mais comment j'aurais rigolé? J'aurais dit, non, mais les gars. Et c'est là, en fait, où on ne se rend pas compte à quel point le divin est beaucoup plus subtil et plus intelligent que nous. C'est-à-dire que nous, on se débat dans ce monde de matière avec notre petite intelligence intellectuelle, tu sais, où on a l'impression qu'on a tout compris, mais en fait, on n'a rien compris du tout, quoi. On est à côté total. Et la vie, elle fait le chemin pour nous, quoi. Elle nous propose des chemins et des trucs. Dès qu'on lui dit oui, bah, il y a tout qui s'ouvre, quoi. Moi, à un moment donné, j'ai arrêté d'essayer de lutter avec moi-même. J'ai dit un grand oui vers le ciel, c'est bon. En fait, je suis ta servante. Fais de moi ce que tu veux. Laisse-moi, enfin, j'ai beau chercher qui je suis, je trouve pas. Donc c'est toi, tu dois le savoir. Donc dis-moi, et je te suis. Et effectivement, bah là, c'est d'un seul coup, il y a tout qui s'ouvre, en fait. Et ça paraît un peu fou dans notre monde, où justement, dit, et on nous invite à essayer de reprendre le contrôle, à essayer, tu vois, de dominer un peu tout ça, mais en fait, il n'y a rien de plus, à mon avis, vertical que de laisser faire, la source.
Alors, c'est ça ton conseil pour rester aligné sur son chemin de vie?
Oui, je pense qu'en fait, c'est simplement de demander quand on ne sait pas, de demander, mais en nommant qui on demande. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément être chrétienne. Moi, c'est mon langage. C'est quand je me suis, quand j'ai été poussée dans cette incarnation, que je me suis incarnée, forcément, j'ai été amenée à rencontrer mes parents, ma famille chrétienne à cette époque précise. Donc, en fait, cet héritage chrétien, je l'ai. Et c'est ça que. C'est ce cadeau-là que j'ai reçu, que j'ai mis des années à comprendre que c'était un cadeau, pour justement aujourd'hui l'utiliser avec mon chemin à moi et ce que j'en ai fait. Il faut regarder d'où on vient et il faut regarder voilà ce terreau-là et regarder les symboles et les choses qui nous parlent à nous et vraiment demander quoi et demander là-haut en fait où aller quand on ne sait pas parce qu'il y a des moments où on se perd. On a la sensation qu'on sait, mais en fait, voilà, on va pas forcément aller dans la. Bon, après, je suis plus aussi pour dire qu'on va toujours dans la bonne direction, même quand c'est des chemins de traverse un peu ouf, qu'on fait des slaloms un peu avec soi-même. Mais il y a un moment donné, je pense qu'il faut s'en remettre en fait à cette intelligence, à cette lumière qui est beaucoup plus intelligente que nous, qui fait partie de nous. Mais qu'on a tendance à oublier en fait, qu'on a tendance à oublier. Et je crois que plus on avance là, plus ça va. Alors je suis pas pessimiste, voilà, mais je suis pas sûre qu'on va vers des moments très joyeux, même si j'aime pas forcément dire ça parce que j'en sais rien et que voilà. Mais il y a des choses peut-être, je pense, qui se préparent pour les temps à venir et si les gens ne sont pas alignés, si les gens ne prient pas et si les gens ne sont pas connectés en fait à cette source-là, ça va être plus difficile en fait à traverser, je pense.
Merci, merci Eiji pour tous ces bons conseils. Anne-Julie, pardon. Il va falloir que je prenne une meilleure habitude. Merci d'avoir partagé ton parcours incroyable et j'ai hâte de la suite que tu nous partages un petit peu plus sur ton activité, tout ce que tu proposes et puis après que tu nous partages un petit peu aussi. Ce qu'est la foi pour toi.
Merci à toi, merci infiniment pour cet espace que tu crées et pour l'intérêt que tu as pour mon travail. Merci beaucoup.
Du fond du cœur, merci.
Et voilà, c'était l'histoire incroyable d'Anne-Julie Ozina. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré et j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Parce que dans le prochain épisode, elle va nous raconter la manière dont elle travaille, dont elle pratique ses rituels et tout ce qui va autour. Et ça aussi, c'est sacrément inspirant et surtout super authentique. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur mon compte Wild Lotus Heart et sur le compte d'Anjali, Anjali Ozina. Je vous dis à tout bientôt, au cœur du Lotus.